Il s'appelle Latitude. C'est un magazine réalisé par l'école de l'ESJ de Lille, ou du moins par les élèves de l'école de journalisme de Lille, ceux en master, peut-être qui ont plus le temps que les autres, je ne sais pas, on va en parler dans quelques instants. Master 1, parce qu'il y a Master 2 après, et là je sais que vous avez des stages professionnels et vous n'êtes pas toujours sur Lille. Donc on va parler d'un travail d'équipe avec Jade, Clément, Lisa, Julie et Nina. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc un journal qui est en préparation pour une édition qui va se faire assez rapidement maintenant. On peut peut-être parler des dates de parution.
Du coup, au niveau des dates de parution, nous, on boucle notre magazine fin de semaine prochaine à peu près. Et il sera imprimé d'ici mi-février, début mars.
Voilà, alors le titre, Latitude, il ne date pas d'aujourd'hui.
Non, tout à fait. On a chaque année un thème. Et cette année, c'est repenser le monde du travail. C'est un thème qui est imposé par nos professeurs. Et cette année, on a décidé de travailler sur les travailleurs et travailleuses essentiels à l'économie et à la société. Voilà, c'est le thème de notre latitude.
Voilà, donc pour l'instant, je ne vais pas demander si ce sont ceux à qui on s'attend qui sont les plus essentiels. Ce sera la réponse qui sera dans le magazine, c'est ça ?
Tout à fait, suspense. Bon, on peut vous en dire un petit peu deux mots. C'est les travailleurs essentiels qu'on appelle de la seconde ligne. C'est les gens qui ont dû travailler pendant le Covid, pendant les confinements, parce qu'ils étaient obligés d'aller au travail, justement, de ne pas se confiner comme les gens qui étaient en télétravail. Et donc, on va parler de ces professions souvent peu reconnues, assez précaires. Voilà, on va parler un peu de toute cette personne-là.
Est-ce qu'ils sont morts davantage que les autres ?
Ils ont en tout cas été plus touchés par le Covid et plus affectés par le virus.
Mmh. Donc voilà, est-ce que vous voyez les choses plutôt franco-français, on va dire, ou aussi à l'international ? Comment ça s'est passé pendant la période ?
Globalement, on voit plutôt les choses franco-françaises. On a décidé d'avoir cette vision française du travail parce que souvent, les problématiques ne sont pas forcément les mêmes à l'étranger et donc beaucoup plus difficiles à calquer ou à mettre en parallèle avec des problématiques françaises. Et donc, on a justement l'avantage d'avoir ce magazine sans avion, donc zéro avion. Et par exemple, moi, je suis représentante du pôle bilan carbone, en tout cas aujourd'hui, du magazine Latitude, parce que chaque personne a des pôles attitrés, entre guillemets. Et aujourd'hui, on a zéro avion dans le magazine. Et donc, c'est pour justement repenser aussi notre pratique journalistique vers une pratique plus éco-responsable, plus verte et plus écologique. Donc là, on a vraiment misé sur le train et également sur le covoiturage et la voiture dans certains cas, mais majoritairement le train.
Alors, je sais que les universités, par exemple, sont tenues de fournir un bilan carbone de leur activité, de leurs locaux, de leur, voilà, tout ce qui... Même quand ils se déplacent avec des conférenciers à l'extérieur, ça doit être comptabilisé. Donc, est-ce que vous avez un mode opératoire pour calculer votre bilan carbone ? Sur quel principe ?
Oui, on en a un. Alors, la première chose déjà, c'est que c'est très facile, quand on prend le train, de connaître son bilan carbone. Tout simplement parce que c'est écrit sur le billet de train combien de carbone vous émettez en prenant ce train. Je connais même quelques commandants de bord qui le disent, vous avez choisi le moyen de transport le plus écologique. Mais en tout cas, pour ce qui est du train, c'est très simple. Pour ce qui est de la voiture, c'est parfois plus compliqué, mais nous, on se base majoritairement sur le site de l'ADEME qui propose de calculer très facilement son bilan carbone en quelques clics. Je veux faire Paris-Lille en voiture, combien c'est d'équivalent carbone en bus, en voiture, en train. Et donc, nous, on prend le bilan carbone en voiture et ensuite, on additionne tout ça. Évidemment, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas calculer le bilan carbone de l'alimentation de chaque étudiant. Ce n'est pas possible. On ne peut pas calculer le bilan carbone de où quelqu'un a logé, quand ou comment. Ce n'est pas possible non plus parce qu'on ne connaît pas, par exemple, le DPE de l'hôtel dans lequel il a résidé à Limoges, etc. Donc, on se base majoritairement sur les transports qui ont permis le reportage et ensuite, on additionne tout ça et on crée le bilan carbone du magazine.
D'accord. Donc, ce bilan carbone, il ne doit pas être forcément une obsession, mais un moyen de réguler, d'améliorer les performances par rapport aux problèmes, on va dire, de la planète en général. Quand vous venez ici à 5, ça veut dire que vous avez anticipé en disant « c'est essentiel de venir à Radio Campus présenter notre journal » et donc ça nécessite un petit dépassement peut-être de ce qui aurait pu être prévu.
Alors, pour ce qui est des déplacements internes, par exemple, intra-Lille, pour dire, on a pris le métro pour venir ici. Concrètement, on peut pas le comptabiliser dans le bilan carbone. C'est pas une obsession, comme vous le disiez, mais par contre, c'est une petite graine qu'on a plantée et quelque chose auquel on pense. C'est-à-dire que je pars à tel endroit, est-ce que le reportage, il y a vraiment un terrain à cet endroit-là qui est intéressant ? Est-ce qu'il n'est pas réalisable par téléphone ou en ligne ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me rendre sur cette, voir cette personne-là parce qu'elle est intéressante pour le magazine ? Et c'est toute cette réflexion qu'il y a en amont, en fait, avant de partir en reportage, qui est importante et qu'on a, entre guillemets, organisée avec le bilan carbone. C'est cette réflexion sur les émissions de gaz à effet de serre que peuvent avoir la pratique journalistique qu'on a, auquel on a réfléchi.
Non, est-ce que ça ne risque pas, je ne parle pas pour vous, hein, mais pour ce genre de pratique dans la presse, hein, d'avoir des zones d'ombre, de gens qu'on ne va plus voir dans les campagnes ou dans des endroits où les gens ont des problèmes mais qu'on ne peut pas traiter parce qu'il faut se déplacer, ça coûte cher et le bilan carbone risque de baisser ? Comment on envisage cette éventuellement fracture sociale ?
Alors, je pense que c'est très intéressant, cette question, parce que vous parlez de la ruralité. Mmh. Vous parlez de comment c'est accessible d'aller à tel endroit, alors qu'on ne peut y aller qu'en voiture. Mmh. Et si le bus passe, il passe une fois toutes les trois heures. Eh bien, dans ce genre de cas, aujourd'hui, on est quand même dans un mode de transport qui est plutôt favorisé par la voiture. Mais la pratique journalistique, elle doit aussi migrer en même temps que son temps. Et donc, les politiques publiques qui mettent en place d'autres moyens pour desservir ces villes-là doivent aussi se superposer avec la pratique journalistique qu'on a d'aller voir ces gens qui sont obligés de prendre la voiture pour se déplacer, pour aller à un endroit, pour aller faire leurs courses ou autre chose. On n'a pas exclu la voiture. Même si c'est aujourd'hui pas du tout le moyen de transport le plus écologique, on ne l'a pas exclu parce qu'elle est nécessaire. Même quand on part en reportage avec une caméra, on ne va pas se trimballer la caméra dans le bus. On est obligé, on a beaucoup de matériel en tant que journaliste qu'on doit mettre dans une voiture. Après, je pense qu'on peut aussi, y réfléchir et c'est une bonne question.
Non, je donne un exemple. Là, dans la presse, on vient seulement de voir qu'il y a des mouvements sociaux des agriculteurs. Ils ont été ignorés pendant des moments. Moi, j'avais quand même des images au-delà de la presse, on va dire, actuelle, reconnue. Est-ce que c'est pas justement à un moment donné cette invisibilité qui est le fait de, que les journalistes ne se dépassent pas forcément sur des terrains de ce type ?
On parle des agriculteurs dans le magazine, nous justement dans cette optique qu'ils sont trop invisibilisés. Donc c'est pour ça qu'on a pris le parti pris justement de parler de ces métiers plutôt invisibles dans les médias. Ensuite, ça dépend de comment on en parle. Souvent, les agriculteurs, justement, on va parler des pesticides, on va parler des suicides. C'est des angles qui sont intéressants, qui sont pas mal traités dans la presse aussi. Nous, on a décidé de parler justement des agriculteurs qui doivent jongler entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ça, c'est des reportages qui s'ouvrent sur notre magazine, justement sur la partie nourrir, parce qu'on a catégorisé notre magazine, et justement, nourrir est un besoin essentiel. Donc nous, on essaye de parler des agriculteurs, mais parler mieux des agriculteurs. C'est pour ça, voilà, c'est des professions essentielles qui nous nourrissent, mais comment on en parle aussi, c'est assez important, et comme vous le dites, ça répond à l'actualité du moment, et ça, c'est justement ça dont on va parler dans notre magazine aussi.
Alors justement, cette déconnexion qui existe parfois entre les lois qui sont votées, les décrets, les réglementations, je parle de l'Europe par exemple, qui ne prend pas forcément en compte les besoins ou les avis de tout le monde, c'est compliqué de faire un monde. On sent aujourd'hui qu'on se heurte à des contradictions entre la nécessité, comme vous faites, hein, de rendement par rapport à la pollution carbone, etc., et l'activité qu'on doit maintenir. Ça, vous en avez déjà là le témoignage.
Oui. Concrètement, oui, on en a des témoignages, du moins c'est ce qu'on a essayé de faire, combiner rendement. Alors nous, on n'a pas forcément cette problématique aujourd'hui puisqu'on a un magazine étudiant et que on n'est pas rémunéré puisqu'on est étudiant. Mais la thématique rendement, on l'a mise de côté, mais il est vrai que parfois dans la presse, les gens, ils n'ont pas forcément envie de lire si un agriculteur, il jongle entre sa vie personnelle et professionnelle, si aussi en fonction, en fait, un média répond aux besoins de son public. Et donc, il joue aussi au clic, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un média, c'est quand même une entreprise et qu'elle a un système économique qu'elle doit vivre. Beaucoup de médias vivent grâce à l'État, d'ailleurs, et n'ont pas de base économique stable. Mais pour pouvoir cibler son public, parfois, il y a des sujets qu'on laisse de côté. Mmh.
Est-ce qu'il ne pourrait pas, justement, avec les financements de l'État, qu'ils soient un peu plus fléchés pour donner l'expression à des gens qui ne l'ont pas?
C'est assez compliqué de répondre pour eux. Mmh. Nous, la chance qu'on a avec l'attitude, c'est que le public est assez vaste, on est assez libre. La preuve, vu qu'on a deux lignes édito sur le print et sur le web, qui font que du coup, on peut vraiment s'intéresser à des sujets qui sont beaucoup plus larges et qui sont assez intéressants parce qu'ils ne sont pas du tout ou très peu traités dans les médias mainstream. Donc là-dessus, on a cette chance de pouvoir développer ce côté un peu plus invisible.
Mmh. Donc quand on parle du travail, puisque c'est repenser le monde du travail, on voit qu'il est en vraie évolution actuellement, qu'il y a des paramètres nouveaux, par exemple l'intelligence artificielle et l'influence dans le travail, mais on a aussi des gens qui ont une vision de leur vie et de l'importance, ou plutôt de la place du travail dans leur vie, où ils ne souhaitent plus forcément d'être des bêtes de somme au service d'une direction dure avec eux, et plutôt vivre leur vie avec l'intérêt qu'elle peut avoir au moment où elle peut être vécue, notamment par des jeunes. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont un regard différent sur la fonction du travail et leur intégration à ce monde-là? Est-ce qu'ils veulent justement modifier les rapports entre l'établissement du travail tel qu'il a été pendant des générations et un nouveau regard qui serait plus... entre guillemets, alors je ne vais pas dire écologique, mais on va dire responsable sur ce qu'un travailleur est aussi en soi un citoyen, un humain qui a une vie, qui mérite peut-être d'être vécu avant de mourir pour la retraite. Donc, réponse ?
Effectivement, quand on nous a présenté le sujet dès le début, repenser le monde du travail, nos professeurs nous ont directement dit que ça nous concernait directement en tant que jeunes. On fait partie de cette nouvelle génération qui a envie de que le travail ne soit pas toute notre vie, enfin de s'émanciper un petit peu du travail. On est les premiers effectivement à repenser notre futur et la façon dont on va vivre au travail et justement dans la ligne édito, alors dans le print aussi et dans le web. On a pris l'engagement de parler des enjeux climatiques, de l'IA et de comment effectivement les métiers essentiels vont être affectés par les enjeux futurs. Donc on a pris vraiment le parti de parler, de faire en fait trois pans dans notre magazine web pour parler des métiers qui vont peut-être disparaître à cause bien de ces évolutions. Des métiers qui vont peut-être apparaître, au contraire, pour s'adapter à ce qui va arriver à l'avenir dans le monde. Et des métiers qui vont devoir muter, entrer en mutation pour pouvoir subsister face à ces perturbations. Et alors ça, on partage plutôt avec aussi le magazine, l'idée donc de repenser effectivement. Donc on a des sujets qui vont parler de la semaine de 4 jours par exemple, du congé menstruel, parce que ça rentre effectivement dans les mœurs aujourd'hui qu'il faut repenser la façon dont les gens vont travailler, dont les travailleurs essentiels pensent leur métier aujourd'hui et à l'avenir. C'est une question effectivement donc, à laquelle on s'est vraiment intéressé et qui est majeure, qui est clé quoi.
Mmh. Donc les revendications légitimes que tu viens d'exprimer, on porte ce combat bien sûr ensemble. Est-ce que les contraintes économiques et notamment la pression du monde qui finance peut être en accord sur certains points? Parce que je vois qu'il y a déjà des entreprises qui ne trouvent plus de salariés parce qu'ils ne veulent pas faire certains métiers. Donc il y a aussi l'option immigration qui est aussi sur la table en ce moment. Est-ce que vous sentez collectivement pouvoir être une force avec des médias qui les expriment, qui expriment cette force et cette nécessité que vous avez soulevée là, pour amener du poids à vos arguments et à les faire admettre par le système qui est un peu dur et peut-être de plus en plus dur du monde économique?
On n'est pas forcément là pour dire aux gens quoi faire et montrer la marche à suivre. Nous, notre volonté avec notre magazine, c'est de poser un constat et de montrer des faits, montrer ce qu'il se passe, montrer ce qui pourrait se passer. Et après, on va demander aux gens effectivement de se saisir de ces réalités-là, mais on ne va pas leur dicter une marche à suivre et une façon de penser. On veut vraiment qu'ils se saisissent de ces problématiques-là. Mais effectivement, si ça peut pousser les gens, les entreprises, le monde du travail à voilà, penser d'une manière différente et à faire évoluer ce qu'il se passe, ben c'est tout bénef, mais il faut d'abord que ça vienne des gens et pas de nous. C'est une conscience qui doit être prise.
Donc j'imagine qu'au travers de ce que vous allez réaliser, hein, ce magazine, vous avez une projection vers vos métiers futurs et peut-être sur la place de la presse, le rôle et la place de la presse dans la société, et peut-être voir comment de nouveaux médias pourraient émerger, au-delà de ceux qui existent actuellement, sur des bases justement qui rassemblent des besoins d'une société, d'une partie de la société, et qui puissent les mettre en avant pour en débattre, tout au moins, sur l'espace public.
Alors la question de créer de nouveaux médias, elle est intéressante parce que dans le cadre de notre formation, on a cette formation-là de création d'un média, d'une création fictive, donc d'avoir une idée et d'en faire un système économique viable, mais qui soit différente de tous les médias qui existent aujourd'hui sur le champ médiatique. Mais par contre, je pense aussi que outre le fait de créer d'autres médias, les médias peuvent aussi muter, comme Jade le disait, et s'adapter et repenser eux-mêmes leurs pratiques. Et tout à l'heure, vous parliez de l'invisibilité. Là, tout l'enjeu du magazine print, donc print c'est papier, et l'enjeu du magazine web, c'est la question de la reconnaissance. Vous parliez des situations économiques dures. Aujourd'hui, les métiers qu'on veut mettre en valeur dans le magazine, même que ça soit dans Repenser, c'est aussi poser le débat, poser la question. Est-ce que finalement, la personne qui est agricultrice, elle n'est pas plus importante que la personne qui fait les lois? En fait, c'est pas une question de rapport de valeur et de mettre quelqu'un sur un piédestal. C'est une question de reconnaissance. Vous disiez qu'on avait du mal à embaucher. Oui, mais pourquoi? Est-ce que vous parliez du système économique dur, est-ce que c'est à cause du système économique qu'on n'arrive pas à embaucher? Quand on demande à un chauffeur de faire 8h, 19h et on lui dit ça sera 1 300 € et qu'il sera dans la précarité avec ces 1 300 €, est-ce qu'il y a assez de reconnaissance envers ce chauffeur pour que quelqu'un veuille faire ce métier? Et c'est tout le débat que la ligne éditoriale web et la ligne éditoriale print essayent de superposer et de connecter de manière à faire le constat des travailleurs essentiels et à repenser la reconnaissance de ceux-ci.
Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour du contenu possible. Enfin, je ne peux pas anticiper. Vous, peut-être, vous avez déjà un peu tous les éléments, mais vous ne pouvez peut-être pas dire tout. Est-ce qu'il y a encore un côté scoop qu'on peut avoir aujourd'hui sur vos productions?
Un côté scoop, je sais pas. Après, ce qui va changer beaucoup par rapport aux éditions précédentes, c'est que là, le site web est complètement indépendant par rapport du print, c'est-à-dire que ce n'est pas un copier-coller des articles print sur le web, c'est vraiment une édito avec son propre contenu. Si je me trompe pas, je crois que c'est une des premières fois aussi où on fait des podcasts. Donc il va y avoir tout un contenu aussi auditif, audio, qui va être assez intéressant, qui va être proposé sur le site internet. Et puis après, pour reprendre aussi ce que vous disiez tout à l'heure et ce que Lisa disait, avec l'attitude, je pense que ça représente assez bien la réalité, dans le sens où c'est quelque chose, un projet qui est extrêmement plurimédia. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul média qui se met sur un seul support, et l'attitude, on le voit bien, on a du podcast, on a un site internet, on va avoir des vidéos, on a les réseaux sociaux qui vont être très développés, le print, et voilà, donc c'est aussi une force qu'on va avoir cette année, qui va être beaucoup plus présente que les années précédentes.
Donc pour vous, l'idée, au-delà de ce travail d'école, c'est un travail d'école quand même, c'est de le diffuser au maximum et de communiquer ce que vous avez justement cherché, vos reportages, vos réflexions, au maximum de personnes qui pourraient être en accès par rapport à vos différents supports.
Oui, clairement, notre but, c'est aussi pas que ça reste juste un magazine au sein de l'école et qui est lu par nous et quelques-uns qui, par exemple, seraient intéressés pour faire les concours. C'est vraiment qu'avoir une assez grande diffusion, que ça puisse toucher tout le monde et toutes les personnes. Du coup, déjà, on s'est à peu près tous engagés à envoyer nos papiers quand ils sont finis pour que les personnes puissent voir un peu ce qu'on a fait. Et du coup, notre magazine, il sera aussi, on pourra aussi l'acheter pour justement avoir cette diffusion. Il sera disponible, pardon, sur le site du coup de l'ESJ Lille en version papier ou en PDF aussi. Du coup, on a deux versions et le site internet, du coup, en accès libre pour tout le monde. On cherche aussi à avoir quelques soutiens, soit de la part des médias ou des personnes qu'on a été voir aussi qui seraient intéressées pour avoir aussi une place dans ce projet.
Mmh. Parce que c'est certes un magazine d'école, mais c'est avant tout du contenu journalistique qui est proposé, des vraies enquêtes, des reportages, et donc le fait que, mais comme je disais tout à l'heure, qu'il soit diffusé, ça peut permettre aux gens de se rendre compte de certaines réalités, certaines situations, et du coup c'est important de diffuser le savoir qu'on a créé.
Mmh. Et cette année, l'ESJ de Lille fête ses 100 ans. Ah oui. Car il a été créé en 1924, on est en 2024, ah ouais, chez moi les comptes sont bons. La diffusion du magazine, elle va se faire aussi pendant les rendez-vous organisés directement par l'école de journalisme. Mm-hmm. On va vendre des magazines papier. D'ailleurs, je pense que tu peux en dire les prix.
Ouais. Du coup, pour le magazine papier, on sera sur du 14 euros pour une livraison à domicile. Si vous l'achetez directement, comme le disait Lisa, sur les événements que propose l'ESJ, ça sera 8 euros et le PDF sera à 4 euros.
Voilà. Et donc, tous ces supports, bon, je pense qu'ils vont apparaître au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une deadline ? Enfin, est-ce que vous, tout va être publié en même temps sur tous vos supports, ou est-ce qu'il y a un aspect progressif d'apparition, on va dire, sur différents types ?
Alors, comme le disait Julie, le magazine papier va être publié mi-mars,
mi-février,
début mars. Le magazine web sur le site internet va être publié dès la fin du mois de janvier, donc le 30-31 janvier, tous les articles web seront disponibles.
Ah oui.
Donc voilà, dès fin janvier, on aura accès à ce contenu-là. Et les réseaux sociaux de Latitude vont être alimentés au fur et à mesure des semaines entre la diffusion du site internet et la diffusion du magazine. Donc il va y avoir du contenu assez régulièrement publié. Donc pendant ces plusieurs semaines qui arrivent, vous allez entendre parler de Latitude.
Très bien.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, on a aussi d'autres contenus qui viennent soit éclaircir des points où dans l'article, on n'aurait pas forcément assez de temps pour le développer. Il y a aussi d'autres regards, des coulisses aussi qui peuvent être aussi intéressants pour voir aussi un peu le travail de comment c'est rendu sur place et tout ça.
Alors, est-ce que des réseaux sociaux sur lesquels vous publierez des éléments, vous attendez aussi des réactions du public et pourquoi pas aussi leur laisser un petit peu la parole ou concentrer peut-être leurs idées pour en mettre des additifs, des add-ons?
Après, en fait, avoir les retours, c'est hyper intéressant. Par contre, le problème, c'est que nous, on ne va pas pouvoir les mettre en place, les retours. C'est-à-dire que ce sera publié, le site internet sera aussi mis en ligne. Et d'ailleurs, on va prendre tous les retours que l'on a. Mais je pense que ce sera plus pour aider la promotion des prochaines pour leur propre Latitude à faire de mieux en mieux.
Voilà. Ouais. Donc justement, à ce sujet-là, est-ce que vous êtes épaulé par les anciens de l'année dernière pour vous guider dans la méthodologie, dans la réalisation, quelques conseils,
hein? Ils sont plus présents en soutien émotionnel. Ils se baladent dans l'école, ils nous demandent si tout va bien. Ouais, le soutien émotionnel est présent. Non, mais en réalité, le soutien plutôt technique, on va dire, est aussi important. Ils nous expliquent, en fait, ils nous ont beaucoup briefé auparavant, surtout avant le début de la création du magazine, pour nous dire comment ça allait se passer, les différentes étapes. Mais c'est aussi intéressant de les voir dormir dans l'école et nous soutenir. Ça fait partie du jeu et c'est très sympa.
Après, je disais juste avant, nous, on va aider la promotion l'année prochaine.
Oui.
On a aussi appris des leçons et des erreurs de la promotion précédente, mais aussi de leur succès. C'est-à-dire qu'au niveau des pôles qu'on a créés, on a renforcé le pôle mixité. C'est-à-dire que maintenant, ils sont deux personnes au lieu de deux pour vraiment s'assurer d'une équité de genre, de métier, etc. On a un conseil de rédaction qui a été créé aussi pour pouvoir s'occuper de la communication interne, pour pouvoir remonter et faire les allers-retours avec la direction pour s'assurer que le tout se passe au mieux sans frustration. On a aussi le pôle trésorerie qui est là, qui s'occupe des allers-retours. Donc on a des encadrants qui sont là de temps en temps aussi sur des différents pôles. Donc on est très autonome. On apprend beaucoup de l'année dernière. On sait qu'il y a des gens qui sont derrière nous si on a besoin. On continue à apprendre de nos erreurs au fur et à mesure et à juste s'améliorer.
Voilà, donc repenser le monde du travail, c'est le thème donc de cette nouvelle édition du journal Latitude, le magazine de l'école de l'ESJ de Lille. Parution, on l'a dit, au printemps et puis d'autres choses un peu avant. Et tout cela pour ancrer aussi dans l'esprit des gens que le monde bouge et que grâce à vous, on pense le faire bouger davantage.
Et juste un petit mot aussi, du coup, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, ça sera majoritairement sur Instagram, et c'est Latitude 2024.
Latitude 2024, oui.
Et le même nom pour le site web ?
Ah non, je disais qu'il y avait un TikTok aussi, il va y avoir pas mal de contenu, enfin...
Qui s'appellera Latitude ?
Tout à fait, oui, on va garder
2024.
Le nom,
d'accord.
Le même nom.
Latitude, L-A-T-I-T-U-D-E-S. Hein.
Voilà. C'est très important, il n'y a pas de T, il y a un S à la fin.
Il y a un S à la fin.
On est précis.
Voilà, donc pour info, il y a un festival qui s'appelle Latitude Contemporaine à Lille, qui est tous les ans au mois de juin. Et Radio Campus, depuis plus de 20 ans, est partenaire de ce festival Latitude Contemporaine. Peut-être que vous pourriez leur...
Avoir des sponsors.
Ouais, leur offrir le journal ou avoir des artistes qui pensent leur métier d'artiste en tant que travailleur, mais pas seulement.
Après, malheureusement, là, on est plus en phase de bouclage. Donc
mais pour dire d'échanger
mais,
avec
pour l'année prochaine, on pourrait changer, ce serait hyper intéressant.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite longue vie et puis dans nos latitudes, profitez quand même du beau temps. Mais ça va s'arranger. Alors, on annonce le printemps, là.
Je sens qu'il chaud,
n'arrive
déjà,
à grand pas. Aujourd'hui, ça va,
ouais,
ça rassure. Donc, le soleil est revenu. C'est le principe, quand même, du nouvel an. C'est que les jours s'allongent. Hein, donc, on les attend. Là. Et puis, on vous souhaite bon vent. Une belle édition pour les 100 ans de l'École supérieure de journalisme de Lille. Je vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée.
Merci, au revoir.